I Turchini di Antonio Florio,
Maurizio Ballini,
l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris
et Lucilla Galeazzi.
Les 16 et 17 février,
quatrième rendez-vous du week-end de Radio France.
Viva Italia!
En plein cœur de l'hiver, la maison de Radio France vibrera au rythme de l'Italie et de ses musiques populaires et savantes.
Tous nos concerts au 01 56 40 15 16
et sur concert.radiofrance.fr.
Événement Le Move, Nick Cave
en version live.
Le concert de Nick Cave en direct de Berlin, c'est mercredi 13 février dès 20h30 sur Le Move. Mercredi 13 février 20h30, le concert de Nick Cave and the Bad Seeds en direct de Berlin sur Le Move. Le Move, une radio de Radio France.
France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur bip, c'est parti.
Salut Daniel, salut toute l'équipe, Didier de Gaillac. Je viens d'apprendre par le biais de France Inter une information gravissime, le pape vient de démissionner. Oh là là, putain, j'ai vraiment beaucoup de peine pour lui. Ça doit être dur pour un pape, la position démissionnaire.
Heureusement, il y a fin.
Pour une raison quelconque, le gouvernement roumain a décrété que les chevaux roumains ne pourraient plus circuler sur les routes roumaines. Conséquence, hongres et juments sont envoyés en masse vers les abattoirs roumains. Et le cours de la viande de cheval y est au plus bas. Oui, et alors ? Et alors, dans le reste du monde, les plats cuisinés pur bœuf ne le sont plus. C'est que l'industriel, blanc comme neige, et ses sous-traitants irréprochables optimisent les coûts, comme ils disent. Et en ce moment, les abattoirs roumains proposent de la viande vraiment bon marché, si on pinaille pas trop sur la traçabilité. Du coup, la recette des lasagnes pur bœuf ressemble à celle du fameux pâté d'alouette. Simplissime, on fait moitié-moitié. Un cheval, une alouette. C'était Christine du Limousin.
Laurence Parisot veut changer les règles du MEDEF afin de se maintenir à sa tête. En fait, elle veut faire la même chose que Poutine en Russie. Poutine, vous savez, l'ex-apparatchik du KGB. Donc, Laurence Parisot est stalinienne. Vous me direz, si BHL est philosophe, si Manuel Valls est de gauche, et si Nicolas Hulot est écologiste, pourquoi Laurence Parisot ne serait pas stalinienne ?
On embauche quantité de manards dans les agences d'intérim, payés à coups de lance-pierre. Voudriez-vous qu'ils fassent la différence entre la viande de cheval et la viande de bœuf ? C'est l'usine de la barbaque internationale. Et si quelqu'un s'avisait de dire quelque chose, on lui dit immédiatement « Casse-toi, t'es viré. Consommateur au bec fin, faites avec. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. »
Bonjour mes amis, c'est moi le Captain Bibeux. Et voici comment je fais mes lasagnes, les fameuses lasagnes du Captain Bibeux. Alors, tout d'abord, c'est très simple. Il faut bien sûr du bon bœuf, hein, du bon bœuf tout frais. Moi, je vais le chercher chez mon copain Dimitrou Spangero. Voilà les bobeux, mon copain Dimitrou, et pas cher en plus. Avec le bon bœuf de Dimitrou, c'est le profit qui explose tout. Bravo, Captain Bibeux.
Il y a quelques jours, un sondage CSA affirmait que 60% des Français reconnaissent qu'il faudra bien passer un jour ou l'autre à la retraite à 65 ans. Le principal argument pour passer la retraite à 65 ans, c'est que, paraît-il, nous vieillissons tous de mieux en mieux et nous vivrons tous plus vieux, que nous gagnons tous un trimestre de vie par an. Est-ce que c'est bien vrai, ce truc-là ? Quelles sont les études qui disent ça ? Et comment ont été faites ces études ? Sur quelles règles de calcul sont-elles basées ? Sur quelles données statistiques ? Est-ce que ça concerne la France, l'Europe, l'Occident ou le monde entier ? Est-ce qu'on tient compte d'éléments de pondération tels que le fait qu'au XXe siècle, on s'est quand même tapé deux guerres mondiales et une épidémie de grippe espagnole ? Au début des années 50, il y avait un réfrigérateur pour 10 foyers. Est-ce qu'on tient compte de tout ça pour nous affirmer qu'on vit de plus en plus vieux et qu'on gagne un trimestre par an ?
Eh oui, le pape mettait du cheval dans les lasagnes, il a dû démissionner. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre voyage en Tunisie.
On continue aujourd'hui et on va à Siliana. Siliana, le tombeau des Nardas. Oui. En décembre 2010, c'était Sidi Bouzid qui était la ville symbole de la chute, le tombeau de Ben Ali. Et il y a quelques mois, on aurait dû faire attention, fin décembre, eh bien, cette ville de Siliana, 150 km à peu près à l'ouest de Tunis a bel et bien été le tombeau des Nardas, au moins a annoncé la chute, du moins le déclin extrêmement rapide de ce parti islamique qui est au pouvoir, qui est toujours au pouvoir, mais dont le rejet est unanime à travers tout le pays. Dans cette ville, fin novembre dernier, il y a eu des émeutes très très durement réprimées, et ces émeutes étaient contre, on va le voir, contre le gouverneur, qui était bel et bien un gouverneur proche des Nardas. La réaction des autorités a été extrêmement violente, la répression a été extrêmement violente, et quelques jours plus tard, les habitants de cette ville, cette petite ville de Siliana, enfin quand même 30 000 habitants, ont fait un truc extraordinaire, un exode. C'est-à-dire qu'ils sont tous sortis, on en avait parlé par téléphone quand nous étions là-bas, ils sont tous sortis, tous les habitants sont sortis, 17 000, 20 000 sont sortis de la ville, en disant, puisque on ne peut pas changer le pouvoir, alors on va changer le peuple. Ils ont pris au pied de la lettre la phrase célèbre de Bertolt Brecht. Et ils ont laissé le gouverneur tout seul au milieu de la ville avec ses flics, et les habitants sont sortis. C'est une histoire extraordinaire qu'on va se faire raconter, en même temps qu'on va comprendre la question de la Tunisie. C'est pas une histoire d'islamisme face à des laïcs, c'est une histoire simplement et difficile aussi, simple et compliquée, une affaire sociale et économique à la fois. Les raisons, les causes essentielles de la révolution tunisienne, qui est une source d'inspiration toujours, qui a été une source d'inspiration et qui est toujours une source d'inspiration pour d'autres pays arabes et pour d'autres mouvements à travers le monde, la cause, elle est essentiellement sociale et essentiellement économique. Et tant qu'un gouvernement ne sera pas capable de répondre à ces problèmes-là, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi la Tunisie est dans cette crise extrêmement compliquée et extrêmement préoccupante, bien au-delà de la Tunisie même. Donc aujourd'hui, voilà, Siliana, tombeau des Nardas, Tunisie, le peuple veut. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Nous, mardi 12 février à 12h, on sera tous rassemblés devant la grille du lycée Edmond Labbé à Douai, les enseignants, les parents, les élèves, la presse, les élus. Nous refusons encore une suppression de 8 postes d'enseignants pour seulement 35 élèves de moins. Depuis 10 ans, notre bahut a été saigné de près de 100 postes de profs. La réussite des élèves majoritairement issus de milieux modestes est notre objectif majeur. C'est l'objectif majeur de l'ensemble des personnels du lycée. Quelle politique poursuit donc le rectorat dans le Douaisis ? Fermer à terme le lycée Edmond Labbé parce que sans sélection on remplit un véritable rôle social sur le Douaisis ? Nous voulons des professeurs pour la réussite des jeunes de milieux modestes et défavorisés. Nous voulons des classes normales, pas à 37. Nous voulons le rétablissement et le maintien d'un véritable service public d'éducation. Nous voulons des postes supplémentaires, pas supprimés. Parce que pour le moment, le mépris, c'est pas fini. Le changement, c'est du flan. Mardi 12 février, 12h.
Aux AMG du Dijonais, le prochain repère, mardi 12, 20h, à l'annexe 47 rue de Vaux, Dijon. Venez nombreux.
Le sofa de Sophie. Sophia, Sophie, fille effacée au facétieux saphisme, fessait sur un soyeux sofa, Lucie, une fille facile, au faux sein, au fossile, mais aux fesses dociles. Le sofa s'affaissant, cette fessée prit fin. Sophie lassée s'effaça, fit ça, laissant sa fiancée dans le fond du sofa. C'était le poète sans fin. Salut.
Ces jours-ci, c'est la crise, non ?
Chômage.
Ah ouais, chômage, chômage. Et est-ce que vous étiez là quand ils ont fait l'exode ?
Toute la ville était présente. On a voulu laisser toute la ville au gouverneur qu'il y vive tout seul. C'était presque toute la ville qui est partie, presque il restait personne. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde. Nous, ici à Céliana, naturellement, on invente toujours des nouvelles choses comme ça, des choses.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base que j'y suis avec Guy Vanquetil et toute l'équipe. Siliana, tombeau des Nardas. Tunisie, le peuple veut.
Athènes, on est ici au milieu de Siliana. Il fait un temps superbe, on a de la chance. On est au carrefour. Devant nous, on ne sait pas très bien ce que c'est, une espèce de fontaine un peu crasseuse, un monument qui s'effondre. Et ça, c'était un édifice au milieu de ce carrefour.
Ouais.
En hommage au grand Ben Ali.
Au grand Ben Ali, surtout après le coup d'État de 7 novembre.
Du 7 novembre. Et pour célébrer son départ, tout cassé.
On a tout démoli.
Et là-bas, vous avez mis une plaque.
Oui, ça, c'était à la place de déclaration de Ben Ali du 7 novembre, avec du marbre. On a tout démoli et on a changé la place pour appeler la place du martyr de 14 janvier.
On a du mal à penser quand même que les paroles d'un type pareil ont pu être gravées dans le marbre. Et que ce soit resté gravé dans le marbre aussi longtemps.
27 ans, pratiquement.
27 ans, grâce à notre soutien. Ouais. Grâce au soutien indéfectible de pouvoir français envers Ben Ali. Bon, donc tout ça, vous l'avez fait sans l'autorisation,
Sans autorisation de personne.
De votre propre initiative.
Bien sûr, c'était initiative, c'est tout avec tout le mouvement révolutionnaire.
Or, ça, c'était la première manche de la révolution, mais là, il y a eu une suite, parce que là, on en est à plus de 2 ans. En tout cas, là, récemment, au mois de novembre, les choses ne sont pas tellement arrangées. Vous avez eu un conflit ici très dur, très très dur, avec des blessés. Raconte-nous. Ah, ouais.
Bon, ça a commencé avec le résultat d'un concours au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire sur 3000 candidats, la part du Siliana, c'était 9 postes d'embauche, 9 emplois. Ça a commencé avec une petite manifestation au niveau du bureau régional de l'EGTT.
L'UGTT, il faut rappeler. L'UGTT, c'est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. C'est un vieux syndicat tunisien qui a persisté sous Ben Ali, qui en partie a été compromis avec Ben Ali, ça il ne faut quand même pas oublier, et qui maintenant a repris du poil de la bête avec la Révolution et représente, disons, l'une des forces d'opposition, sinon la force d'opposition la plus radicale au gouvernement actuel, dominé par Ennahda, c'est-à-dire le parti islamiste.
Après cette première manifestation, on a organisé un autre jour de contestation. Ça a commencé, le premier jour, c'était pacifique. Mais le troisième jour, on est passé devant le gouvernorat pour dire au gouverneur de se dégager.
De partir.
De partir, parce qu'il n'arrive à rien faire. Le malheur qu'on était confronté avec à des policiers qui ne sont pas d'ici, à des forces d'ordre énormes, ils ont commencé avec le jet de bombes lacrymogènes et suite à ça, ils ont commencé à tirer avec des chevrotines.
Avec des cartouches prévues pour la chasse aux sangliers.
Aux sangliers, aux gibiers et tout ça.
Ouais.
Ça a commencé devant le gouvernorat. Et vous avez devant vous même un exemple. Là. Tu vois le tableau publicitaire là.
Ah ouais.
Et ça, c'est du plomb.
Ah oui, tu vois le panneau publicitaire, là, on voit, il est moucheté de petits trous.
Ah, d'accord, on voit, on est à 50 mètres, ça veut dire que c'est quand même des gros plombs de chevrotine.
Des gros calibres, c'était de 12 et de 16. Moi, j'étais aussi touché.
Combien de blessés au total, alors?
Au total, c'était pratiquement 320, 328 inscrits dans nos registres. 18 qui ont été transférés dans des services spécialisés d'ophtalmologie de Tunis, l'Institut de Hedi Raïs. Et après ça, 4, 2, ils sont transférés en France. Même il y avait de vos compatriotes de France 24 qui étaient touchés avec Chevrotin.
Enarda dégage. La partie est terminée. Enarda dégage. On a entendu ce slogan, des slogans similaires tout au long des hommages, des funérailles rendus à Chokri Belaïde, ce leader politique d'extrême gauche assassiné. Mercredi dernier, on a évoqué ces événements considérables pour la Tunisie dans nos émissions de mercredi, de jeudi et de vendredi. Enarda dégage, la partie est terminée. Mais ce slogan-là, on l'avait entendu auparavant, fin novembre, dans la ville où nous sommes aujourd'hui, à Siliana. Le peuple de Siliana a manifesté très violemment contre le gouverneur, contre l'incompétence politique du gouvernement dominé par Enarda, et qui manifestait toujours les mêmes, la jeunesse tunisienne, ces jeunes chômeurs, diplômés, tous ceux qui sont dans la difficulté, dans le chômage est en train de monter dans des proportions extraordinaires, en même temps d'ailleurs que le secteur économique informel est en train de se développer, les pénuries, l'inflation, la misère, la pauvreté, tout ça avait déjà commencé avec Ben Ali, mais c'était maquillé, les journalistes n'étaient pas très curieux de sortir de Tunisie, quand toutefois ils allaient s'intéresser à cette ville où tout marchait si bien, à en croire la classe politique française. Donc voilà, les difficultés sont très grandes, ce sont ces difficultés qui sont à la base de la révolte tunisienne, et en 2 ans, eh bien, le gouvernement n'a pas su donner de réponse, apporter la moindre réponse. Donc c'est d'abord l'incompétence d'Enarda qui éclate aujourd'hui, ces jours derniers. C'est l'incompétence politique de ce parti qui faisait si peur. Eh bien, ceux qui en avaient peur devraient se rassurer. Ils sont tout simplement, ce parti islamique est simplement incompétent. Ils n'avaient pas participé, faut-il le rappeler, à la révolution. Et on oublie souvent qu'il fut mal élu en octobre 2011. Mal élu, bien sûr, parce que si on fait bien les comptes, par rapport aux inscrits, il n'y a que 19% des électeurs qui ont voté pour ce parti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il perd sa place hégémonique, et non pas parce qu'il est islamique ou pas islamique, ou laïque ou pas laïque, c'est parce que d'abord, il est incompétent, et parce qu'effectivement, les réformes tant attendues, exigées, demandées par le peuple veut, ces mots ont été prononcés partout dans le monde arabe, à partir de cet extraordinaire moment de l'hiver 2010-2011, eh bien le peuple veut des changements, non seulement des changements politiques, mais d'abord à commencer par des changements dans la vie quotidienne. Et c'est pas venu, rien, aucun signe, aucune perspective, aucune présence même de quoi que ce soit de nouveau. Alors, émeute, manifestation extrêmement violente de la part de cette jeunesse et de toute la population, et puis répression très brutale, on vient de l'entendre, à coups de chevrotines, des quantités de gens se sont retrouvés blessés, des jeunes gens se sont retrouvés aveugles à la suite de ces tirs, et on pouvait lire sur les murs de cette ville de Siliana. Vous avez pris nos yeux, mais vous ne pouvez pas emporter nos voix. Nous devons vous demander de partir. Vous êtes des islamistes, mais vous ne connaissez rien à l'islam. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, Siliana, tombeau des Nardins.
Sont prêts à se sacrifier pour leur ville. À Siliana, la colère ne retombe pas.
France 2.
Ce matin, ils étaient encore plusieurs milliers pour une marche pacifique vers Tunis, à une centaine de kilomètres.
30 novembre 2012.
Ils réclament depuis mardi la démission du gouverneur de la région, accusé d'incompétence. Dans la foule, de nombreux chômeurs, très souvent des diplômés. Ils demandent des vrais projets pour l'emploi, un programme économique qui sortirait la région de la sinistrose.
Le gouverneur ne restera pas. Notre problème, c'est le gouverneur. Même s'il ramène le développement, il doit partir.
En 4 jours, la manifestation sociale a viré à l'affrontement très violent avec la police. Hier, ces images ont choqué l'opinion tunisienne. On y voit les forces de l'ordre frapper sans ménagement un homme au sol. Des violences policières et des tirs auxquels les manifestants répliquent par des jets de pierre. Les échauffourées auraient fait 300 blessés. Le président tunisien doit prendre la parole ce soir pour appeler au calme.
Alors, raconte-moi l'épisode de l'exode.
Après la déclaration du chef de gouvernement, c'est M. Jbeli, qui a mis la barre un peu haut, il a dit que le gouverneur ne sortira pas de Siliana qu'après le départ de Jbeli. Nous, on a dit qu'est-ce qu'on va faire après cette déclaration.
Et puis, il a refusé de désavouer le gouverneur qui avait ouvert le feu sur la population.
Sur la population. Nous, on a dit quoi? On a dit soit qu'on change de gouverneur, soit qu'il change de citoyen. On a décidé de laisser la ville, de faire un exode symbolique, en sortant de la ville et en laissant tous nos biens et tous nos boutiques comme ça fermées. Et le gouverneur, comme ça, il sera content.
Puisque lui ne veut pas partir, c'est nous qui partons.
Voilà.
Et puisqu'on ne peut pas changer le pouvoir, on va changer le peuple.
Voilà.
Quand on réfléchit un peu, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas que des gens. Il y a des vieux, il y a des gosses, il y a toutes sortes, il y a des femmes enceintes, il y a tout ce qu'on peut imaginer.
On a essayé de gérer ça. On a essayé de gérer ça. On a contacté aussi de la protection civile, l'hôpital régional de Siliana, qui l'a mis à la disposition des ambulances. Tout le monde, ils ont envie de réaliser cette idée.
Vous étiez à pied, en car, en voiture?
Non, on était à pied.
C'est comme une manif qui quittait la ville, quoi.
Qui quittait la ville.
Ouais. Et ça faisait combien de personnes en tout, alors?
Ça a dépassé une vingtaine de milliers.
20 000 personnes qui sont sorties le matin.
On a quitté la ville à 10 h du matin, on a rejoint la ville à 16 h de l'après-midi.
Et vous êtes allé où?
On est sorti de la ville à peu près une dizaine de kilomètres.
Ah, quand même?
Ouais.
Quand même à pied?
À pied, on était sur la région la plus haute de Siléa pour voir la ville vide comme ça.
Vous êtes monté sur une colline pour regarder votre ville vide.
Voilà. Enfin, vide avec seulement le gouverneur.
Seul le gouverneur, seul.
Et les policiers comme ça, seuls. C'était le 5e jour de grève générale de Siliana.
C'était novembre 2012. C'est une idée magnifique. Hein. Politiquement, c'est génial. C'est une mise en scène.
Comment
vous avez eu cette idée? Parce que ça, j'ai jamais entendu la réalisation d'une idée pareille.
Moi, c'était la volonté des citoyens de Sélienne. Ils étaient prêts à tout faire pour se faire entendre.
Eh, une idée à retenir, hein. Une idée à retenir. Imaginez, on quitte tous Paris. Ou bien, vous quittez la ville et vous laissez au milieu de la ville les autorités, les CRS, et vous sortez de la ville en cortège, comme ça, et puis vous revenez, ou vous revenez jamais. Voilà, tout d'un coup, le peuple s'en va. Puisque on ne peut pas changer le pouvoir, et bien changeons le peuple. C'est une idée tout à fait originale, dont les médias n'ont pas tellement parlé, parce qu'ils sont tous venus au moment des émeutes, bien évidemment. Ils sont venus constater la brutalité, l'imbécilité de cette répression. Et puis voilà, et ensuite, qui n'ont pas forcément beaucoup couvert cette extraordinaire idée de cet exode symbolique des habitants de cette ville de Siliana. Concernant la brutalité de la répression, il faut rappeler que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur n'ont absolument pas changé en Tunisie. C'est toujours les mêmes. Et ça fait quand même 2 ans maintenant, cette révolution. On peut comprendre une certaine impatience de la part des habitants et le constat d'incompétence de ce gouvernement dominé par ce parti islamiste. Alors on fait un tour dans les rues de Siliana, vers le marché, dans le quartier commerçant, à la rencontre des gens, des habitants, qui sont assez fiers d'eux quand même sur ce coup-là et qui sont très remontés.
Salam alaikum.
Bonjour. C'est vous le boucher ?
Oui.
Ah, et racontez-nous un peu là, l'exode. Tout le monde a quitté la ville en novembre ?
Oui.
C'était un jour de colère à Siliana. La première étincelle qui a éclaté en Tunisie contre Ben Ali, ça c'était à Siliana en
1990.
C'était ni Sidi Bouzid, ni dans le bassin minier. La première étincelle, c'était en 90 ici.
Qu'est-ce qui s'était passé alors en 1990 ?
Quand انتفاضة بها تعمل عن الكلمة ودخل فيها الأمن تدخل فيها الضرب بالمولوتوف الناس ترموا في الحبوسات عانين الويلات.
C'était un soulèvement dans tous les sens du terme. Il y avait beaucoup de répression policière, des armes, des gens qui ont été jetés en prison.
Qu'est-ce qu'ils voulaient les manifestants? الناس
حاسب القهر حاسب البطالة حاسب بالظلم حاسب هذا كل ولد انفجار متاع المواطنين.
Les gens sentaient beaucoup d'oppression, beaucoup d'injustice, beaucoup de chômage. Bon, ça a produit une explosion populaire. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens de Siliana sont des gens courageux. Et la preuve, c'est que le jour où ils ont voulu quitter la ville, ils l'ont quitté.
Oui, mais alors, racontez-nous l'exode. Ça, c'était au mois de novembre dernier, c'est-à-dire en 2012. Vous avez décidé tous de quitter la ville.
Oui.
Vous avez quitté vous aussi ?
Non. Moi,
je ne peux pas marcher beaucoup. J'ai un problème de dos. Je
ne
peux pas marcher longtemps. Donc, je n'ai pas marché avec les autres, moi, ce jour-là.
Mais sinon, tous y sont allés.
La majorité des habitants, oui, ont participé, même des personnes âgées, des enfants.
Les dames, elles ont fait l'exode, là, par exemple ?
Oui.
Vous aussi, madame ?
Moi, je suis trop âgée, j'ai mal aux genoux, non, je suis malade.
Mais vous l'avez fait, vous ?
Non, je ne suis pas allée. Moi, je suis allée regarder les confrontations. Avant.
Quand ils ont tiré sur la foule, auparavant, vous y étiez ?
Oui, j'y étais, j'ai vu quand ils tiraient sur les gens.
Et pourquoi ils manifestaient ?
Parce
qu'ils...
C'est pour l'embauche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études et puis ils se retrouvent à la maison. Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de chômage, donc ce sont des revendications de développement.
T'as vu des vieux qui ont mal au dos qui s'en font soigner ?
Après, ils ne peuvent plus faire la révolution. Ce serait con quand même de rater ça. Moi, je suis en train de manger du halva. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous nous recevez là dans votre épicerie ?
Et le gérant, là.
Je suis le gérant d'ici.
Comment marchent les affaires ?
Chouette. Un peu, oui. Manque de lait, manque d'eau.
Manque de lait, quand même ?
Oui, lait. Parce qu'on n'a pas de fournisseur aussi.
Il n'y a pas de fournisseur ?
Non.
Mais pourtant, il y a des campagnes tout autour. On a vu des olives, des champs, on a vu des vaches, des chèvres, des moutons. Il y a tout ici.
Non. Pas d'usine.
Ah, il n'y a pas d'usine.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a du chômage ?
Oui, beaucoup de chômage.
C'est ça qui a fait la colère des gens, oui.
Et après, vous êtes allé manifester avec
oui.
les autres ?
Oui, j'ai allé. ضربهم برشا عباد معناها ضربهم برشا وديجا ضربهم في العباد في عينيهم و
Il y avait beaucoup de blessés à la chevrotine, beaucoup d'entre eux ont été blessés aux yeux. Il y a eu des femmes qui ont fait des fausses couches dans la manifestation.
Les enfants,
beaucoup d'enfants ont eu des étouffements à cause des lacrymogènes.
Mais j'ai l'impression que vous me décrivez quelque chose de pire qu'à l'époque de Ben Ali.
Exactement, c'était pire.
Et pourtant, c'était un gouvernement qui a été élu par la majorité des Tunisiens. Et je crois que El Nada, ici, a fait la majorité des votes aussi.
Parce que nous, on croyait que c'était des gens qui craignaient Dieu. Et bon, il s'est avéré que c'était des gens pas assez compétents.
Donc la colère s'est pas calmée, en fait.
C'est ça. Il y a le parti El Nada qui a son local juste au-dessus d'ici. Ils vont sortir à la fin du mois. On va les faire sortir d'ici. Nous, on leur a loué le local au-dessus du magasin. Là, mais là, on n'en veut plus du tout. Allez, cassez-vous. On n'en veut plus du tout. Ça y est.
Donc vous êtes les proprios des bureaux locaux à Siliana du parti El Nada. Et vous voulez les mettre dehors. Vous voulez les chasser de vos bureaux et chasser de la ville.
Oui, c'est mon frère, le propriétaire. Oui, il veut les faire sortir de là. Et ils lui ont dit, OK, à la fin du mois, on s'en va. On ne veut plus d'eux du tout parce qu'ils nous ont menti. Ce sont des menteurs. C'est des gens qui font la prière et qui mentent en même temps. En fait, c'est parce qu'ils nous ont menti, ils se sont moqués de nous, ils nous ont dit qu'ils allaient faire plein de projets. Moi, personnellement, on m'a dit oui, ils nous ont ramené un livre avec marqué plein de projets, on va faire tel projet. Puis en fait, ils nous ont menti, ils n'ont rien fait.
Hein? Merci.
Merci beaucoup.
Vive la France.
Vive la France. Shukran.
Voilà, tout ça s'est passé fin novembre dernier et ces manifestations très violentes qui ont fait l'unanimité dans cette ville de Siliana faisaient partie des signes annonciateurs du rejet du parti El Nada, parti islamiste. Mais on voit bien que dans ce que dit cet habitant, c'est parce qu'ils ne sont pas fidèles à l'islam qu'ils sont rejetés. Ils se présentaient comme le parti des gens vertueux, ce qu'ils avaient été d'ailleurs, des gens opprimés, ce qu'ils avaient été d'ailleurs, et de ceux qui n'étaient pas comme Ben Ali et les siens, des gens corrompus, avec leurs l'oppression bling-bling, c'était ça, Ben Ali. Non, Enana, c'était les gens vertueux, modestes, craignant Dieu, etc. Voilà, au bout de quelques mois, la bien été obligée la population a dû constater que rien ne se passait. Sans. Quand on est ici à Siliana, c'est que la révolution recule, les dates de la révolution reculent. À Sidi Bouzid, pour tout le monde, dans l'histoire telle qu'elle est écrite actuellement, c'est à Sidi Bouzid que tout a commencé en décembre 2010, lorsque ce jeune homme, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu. Ça a été le déclenchement. Mais quand on est à Redeyev, dans le bassin minier, on dit non, ça a commencé avant, ici même, en 2008. Vous vous souvenez de notre reportage. Et maintenant, à Siliana, on dit non, ça a commencé avant 1990. La révolution, les changements, les grands retournements, c'est des choses lentes, c'est des grandes plaques, tectonique comme ça, qui bouge lentement. L'histoire est lente, mais l'espérance est violente.
Ce qui doit changer à Siliana, c'est le développement. Ce sont les plans de développement. Comment on va développer la ville?
On a peine à croire que vous ayez de telles difficultés ici quand on arrive dans le coin. C'est vert. C'est pas l'idée qu'on se fait de pays du Maghreb.
Ouais, ça, hein. Ça.
C'est verdoyant. On dit, mais on arrive dans le Jura, là... ou en Suisse, ouais. C'est, tout est vert, tout a l'air de marcher. C'est une région agricole.
Ouais.
Or, je vois qu'il y a 45% de chômage. Enfin, c'est vraiment un développement catastrophique, voilà. Ou une absence de développement.
Vous voyez tous ces terrains, toute cette verdure, mais c'est la propriété de quelques-uns. Le bonheur de quelques-uns fait le malheur des autres. On est le deuxième producteur du blé dur, mais on n'a pas même un petit moulin pour la transformation.
C'est-à-dire que tout part d'ici, tout part mais rien ne reste.
On est un lieu de production et de stockage, c'est tout. C'est simple. Pour nous, il y a trois choses à faire pour développer la région.
Ouais.
L'infrastructure, en premier lieu.
Ouais. C'est-à-dire, on a vu les routes qui sont,
vraiment très mauvais état. Si on arrive à rétablir l'état des routes et relier Siliana au chemin de fer, et relier Siliana au réseau de gaz des villes, alors les investisseurs, ils vont arriver.
Qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre ce gouverneur et le système précédent de Ben Ali? Finalement, c'était la même chose.
On a changé seulement le nom.
Voilà, c'est ça.
On a changé seulement le nom du gouverneur et le nom du parti. Autrefois, il avait le parti de RCD de Ben Ali. Maintenant, il a le parti de Nahda avec ses milices et tout ça.
Donc, on a compris, c'est une lutte. Ici, Siliana, c'est une lutte qui s'est installée entre l'UGTT et l'opposition, et puis le gouverneur comme représentant d'Ennahda.
C'est ça.
C'est un des fronts en Tunisie. Il y en a beaucoup d'autres qui sont manifestés, qui sont installés un peu partout. Et on est en plein dedans, ça continue.
C'est exactement ça.
Que même se développer.
Voilà, ça a commencé à Siliana et va se développer dans d'autres régions.
On est comme dans une deuxième révolution. Une révolution dans la révolution.
Ça, vous pouvez le constater. Le développement, ça ne concerne pas que Siliana. Il concerne tout l'intérieur, surtout le nord-ouest. Et il faut s'attendre que ça va même se déplacer dans des autres régions. Il n'y a pas de signal de changement, là, et de bon foi. Alors là, on est devant la mosquée, c'est ça?
On est devant la mosquée, c'est le vendredi, c'est le jour de prière.
On est vendredi, on est devant la mosquée, il y a les étals de marchands de fruits, et il y a les jeunes gens tout barbus, entre militaires et calottes, qui sont là. Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
On voulait savoir ce qui s'était passé ici, parce qu'on nous a dit que c'était un des lieux où il y a eu une grave protestation, une répression, et où toute la ville a quitté la ville pour faire partir le gouverneur de Nahda. C'est ça?
C'est ça.
Et vous avez participé ou pas?
Non.
Pourquoi?
À quoi ça va nous servir d'y participer?
Peut-être d'améliorer la situation, s'il y a du chômage, s'il y a des difficultés.
Ils ne nous écoutent pas, vous savez, vous allez voir le gouverneur, vous allez voir qui que ce soit, on ne vous écoute pas.
Donc vous n'avez aucun espoir de changer les choses?
Changer les choses, je crois pas, non.
Donc ça va comme ça, vous acceptez les choses comme elles sont?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on casse, qu'on brûle?
Non, pas casser, pas brûler, mais manifester.
Manifester, on vous entend pas. Enfin, quand les gens vont se plaindre. Déjà, si on arrive à voir le gouverneur, c'est déjà grand-chose. Généralement, on n'approche pas, quoi. Et même, de toute façon, quoi, vous allez leur donner un dossier. Ils vont le prendre, ils vont le classer ou ils vont le mettre enfin, sur tous les autres tas de dossiers. Mais qu'est-ce que ça va changer? Il n'y a rien qui change.
Vous êtes un déçu de la révolution, alors?
Non, enfin, nous, on a eu le minimum, c'est que les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent penser.
De dire ce qu'ils veulent dire.
De dire ce qu'ils veulent dire, et voilà, quoi. Après, tout le monde vit, et voilà, quoi.
Mais n'empêche que ça a marché, puisque le gouverneur est parti.
Enfin, il est parti, on a mis quelqu'un d'autre à sa place.
Ouais.
Donc, c'est les mêmes pensées, ça n'a rien changé.
Donc, vous espérez rien?
On n'espère rien du tout.
On espère, c'est vous qui espérez rien, parce que nous rencontrons plein de gens qui espèrent plein
de choses. Bon, on peut toujours rêver, hein.
Ouais. Ah oui, bien voilà. Sûr. Ouais.
Donc, que ça soit en Europe ou que ça soit dans
ouais, vous n'avez aucune partout, illusion, vous ne en... faites pas d'illusion, vous.
Non, parce ouais. Que enfin, la démocratie dont on parle, c'est des paroles, quoi. Des paroles, d'accord. Et c'est
qu'un rêve. Ce serait de bonnes choses pour vous? La démocratie, vous n'y croyez pas?
Démocratie, enfin, vous voyez, en Europe, on parle de démocratie, de droits de l'homme, etc. Mais, par exemple, je sais pas, moi, les par rapport aux guerres,
ouais.
y a des décrets ou des lois ou des règles, quoi. Enfin, par rapport aux civils, on massacre pas des civils. Mais, voilà, quoi, c'est que des paroles, c'est de la poésie, quoi. Eux-mêmes, ils les appliquent pas, donc alors... ils vont pas les appliquer aussi ici. Hein.
Vous êtes d'ici, vous êtes de Siliana?
Oui.
Ouais.
Oui. Vous avez vécu en France?
Ouais.
Non.
Bop. Il a un accent bien franchouillard. Hein?
Un petit peu.
Ouais. Où ça?
En France.
Ah oui, près de Paris.
Peut-être bien.
Voilà. Et maintenant?
Et maintenant, on est ici.
Et maintenant, ici. Prêt pour le djihad?
Djihad. Djihad sur soi-même déjà.
Déjà et ensuite?
Et ensuite sur soi-même.
Que sur soi-même ou ailleurs?
Que sur soi-même.
Vraiment?
Vraiment.
Allez, bon. On continue.
Allez.
Prénom?
Mohamed.
D'accord, mettons.
Allez, au revoir.
Salut, au revoir, merci.
Voilà, et ben un jeune homme de la probablement de la banlieue parisienne, même plus que probablement, qui appartient au mouvement salafiste et qui est prêt au djihad. Mais attention, hein, le djihad sur soi, oh là là, certainement pas autrement. On n'allait pas appeler tout de suite monsieur Manuel Valls et lui dire que là-bas en Tunisie. Ça reste entre nous, ce qu'on vient d'entendre. On continue la balade dans les rues de Siliana.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre boulot?
Ah, mais Léo.
Travailleur journalier.
Bâtiment.
Et ça marche, il y a du boulot?
Comme ça. Ces jours-ci, c'est la crise, non?
Chômage.
Ouais, chômage. Et est-ce que vous étiez là quand ils ont fait l'exode? Hein?
Toute la ville était présente.
Viens nous raconter.
On a voulu laisser toute la ville au gouverneur qu'il y vive tout seul. C'était presque toute la ville qui est partie, presque il n'y restait personne. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde. Nous, ici à Siliana, naturellement, on invente toujours des nouvelles choses comme ça. Des choses.
On nous raconte que, en fait, la révolution elle a commencé ici, en 91. T'étais pas grand en 91. Mais ça te dit quelque chose, ça?
Oui, je suis au courant. Bien sûr, c'est vrai, ça, bien sûr. C'était avant Gafsa, c'était avant Sidi Bouzid, oui.
Mais nous, plus on voyage en Tunisie, plus on nous dit, ah, mais nous, c'est nous la vraie révolution, c'est nous.
Presque,
Non, 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 si vous demandez même aux autres Tunisiens, si vous leur rappelez ce qui s'est passé à Sélienne, à 4 ans seulement après l'arrivée de Ben Ali, ils vous diront que c'est, oui, c'est à Sélienne que ça s'est passé.
Est-ce que tu as voté en octobre 2011, le 23 octobre 2011, est-ce que tu as voté?
Je suis entrée au bureau de vote, mais je n'ai pas voté. J'ai mis une feuille telle quelle et je suis sortie.
Ah, t'as voté blanc, ça veut dire?
Oui. Parce que j'avais confiance en aucun parti et jusqu'à maintenant, j'ai confiance en aucun d'entre eux.
Il
n'y a rien qui te fait plaisir de leur part pour que tu dises « Ah, je vais voter pour celui-là ou celui-là ».
Donc, t'attends rien des élections?
J'attends rien du tout. Même s'il y a un autre gouvernement qui tient le pays, ils ne répareront rien du tout. Le monsieur à côté, il dit, vous, quand vous avez fait la révolution de France, combien d'années vous a fallu pour réparer les choses?
40 ans, 50 ans, à peu près.
Ça veut dire que t'es là.
Ça fait seulement 2 ans, nous. Ça fait seulement 2 ans. Ouais.
Mais vous regrettez le temps d'avant?
Allez, maintenant je l'admets, Black.
Non, pas du tout, au contraire. On ne regrette pas du tout, au contraire. Parce que, bien sûr, le chômage, naturellement, il a augmenté. Le chaos, il a un peu augmenté aussi au niveau sécurité et tout. Mais bon, on garde espoir dans le futur. L'autre, il dit, rien n'a changé. On nous a fait que des promesses de projets, etc. Et franchement, Nada devrait lâcher l'affaire du gouvernement. Il devrait laisser tomber cette histoire.
Et Nada devrait partir?
Oui.
Oui.
Remplacé par qui?
Ceux qui sont capables de réparer la situation, ceux qui font des promesses, qui pourront réaliser.
Vous avez gagné.
Oui, on a gagné, oui.
Ah oui.
Alors
on a gagné, on n'a pas gagné.
On a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Mais nous, on n'est pas contre la personne du gouverneur, on est contre la situation économique et sociale de la ville.
Alors le gouverneur est parti, vous avez compris. Le gouverneur a été viré, un nouveau gouverneur est arrivé. Et là, on est au gouverneurat. On est dans le bâtiment du gouverneurat. Et dans le hall, qu'est-ce qu'on voit? Une quinzaine, une vingtaine de femmes. Qu'est-ce qu'elles font là? Eh bien, elles sont en grève. Elles occupent ce bâtiment. Pourquoi? Parce qu'elles ont des revendications et elles sont là pour leur salaire et pour essayer d'obtenir du nouveau gouverneur un entretien.
On est en grève de la faim depuis un mois. Ils sont très pauvres et ça fait un mois qu'on fait un sit-in ici.
On est très mal payé, on a des emplois très précaires, on travaille pendant tout un mois, on nous donne un salaire de 8 jours.
Combien vous gagnez par mois ?
85 dinars, c'est-à-dire 42 euros par mois. Et il y a des gens qui ont 120 dinars, ça veut dire 60 euros par mois.
Ça, c'est ce que vous paye le gouvernorat. Pour faire quel genre de travail ?
Agent administratif, comme moi, je suis agent administratif, et il y a des femmes des ménages. Et je suis payée 85 dinars, 42 euros. Et il y a des gens à qui on a fait des contrats de stagiaires. Une situation de travail très très précaire. Toutes ces femmes-là sont locataires, ont des charges, sont mariées, ont des enfants, il y en a deux qui ont des maladies chroniques. Il n'y a ni dignité ni rien du tout. Tout ce qu'on raconte sur le droit du travail, ben on n'en voit rien du tout, on n'en a rien. S'il y avait un truc qui avait changé depuis la révolution, pour nous, on n'aurait pas fait une grève de la faim depuis un mois et on n'aurait pas fait un sitting qu'on a arrêté puis qu'on reprend maintenant. Ils n'arrêtent pas de nous faire aller, venir, jusqu'à quand ça va durer. Ça fait deux ans quand même qu'il y a eu la révolution et absolument rien n'a changé en deux ans. Ici, c'est une ville oubliée. Dès qu'on parle de liberté, de travail, de droit au travail, de quelque chose, ils appellent la police et on nous menace de nous arrêter.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'était mieux avant avec Ben Ali?
La situation n'a pas changé, même depuis le temps de Bourguiba. C'était pas mieux avant, c'était pareil.
Vous avez voté en octobre 2011. Vous avez toutes voté avec le doigt bleu.
Moi, personnellement, je n'ai pas voté Nahda. On n'a pas toutes voté pour Nahda. Chacune a voté pour le parti qu'elle préfère. Nahda, en général, elle est refusée. Et
si dimanche, c'était les élections, vous voteriez pour qui, vous ?
Je vais garder ma voix pour moi-même, je ne la donnerai à personne.
Et vous ?
Et nous toutes. Moi aussi, je ne voterai pas pour un Nahda. Je ne voterai pas un Nahda.
Nahda, non.
Moi, pour un Nahda, non.
Un Nahda, zéro.
Moi, je voterai pour Hamma Hamemi.
Hamma Hamemi, c'est le parti communiste ouvrier tunisien.
Oui, mais c'est un communiste, hein. Il n'est pas musulman, hein. Il est athée.
Non, il est croyant, au contraire, il est plus croyant que les autres. On est musulmans et on est plein de foi et on a besoin de personnes qui nous apprennent comment être des bons musulmans. Au contraire, on est meilleurs musulmans qu'eux. C'est eux qui n'ont pas assez la foi finalement.
Qui est-ce qui n'a pas assez la foi ?
Nahda ou n'importe quelle autre personne qui viendrait prendre notre religion et devienne la porte-parole de notre religion. Personne ne lui a délégué cette mission de parler de notre religion. Tous ces gens-là, ils n'ont pas assez la foi. Les gens de Nahda sont supposés craindre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu, qui laissent des gens pauvres comme ça, affamés comme ça, malades comme ça ? C'est ça normal que moi j'ai un diplôme de l'enseignement supérieur et que je fais ce travail-là, précaire, à 80 dinars. Voilà la liberté. C'est bien la liberté qu'on a demandé, celle-là, hein, n'est-ce pas ? On n'est même pas libre de pouvoir manger ce qu'on veut.
Ah, ça y est, tout le monde se lève, parce qu'en fait, c'est l'heure, comme par hasard, maintenant qu'on est là, le gouverneur accepte de les recevoir.
Moi, je ne vais pas le voir, le gouverneur. Il va m'irriter et je vais dire des choses pas bien. Je vais laisser les autres parler, c'est mieux.
Hommage.
C'est nous qui avons fait sortir les gens de leur maison, nous que vous voyez ici.
نحن اللي خرجنا البلاد في نصلح نحن اللي هزينا صندوق الوالي والجبالي والنمر.
Et en même temps, nous, c'est nous qui avons porté le faux cercueil du gouverneur qu'on a porté puisqu'on a mimé un enterrement.
Vous aviez mimé un enterrement en portant un cercueil. Et c'était le cercueil du gouverneur. Avec son nom dessus. C'est sympathique, moi je ne voudrais pas être le gouverneur. Hein.
Et vous savez quoi, samedi, dans les rues de cette ville de Siliana, eh bien, il y a eu un long cortège qui a à nouveau apporté un cercueil. Symboliquement, c'était celui de Chokri Belaïd. Merci à tous. C'était Le Peuple Veut, Siliana, tombeau d'Enarda, avec Guy Vanctil, traduction Selma Azridi. Merci à Atem et à tous les amis de Siliana. Merci également à Abderrahman Edili et à Kamel Jandoubi. Merci à toute l'équipe de la Bassi suis qui a fait le montage de ces émissions. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, sur le site labas.org, la-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission. Et il y a aussi la page Facebook de l'émission. Cette émission a été réalisée par Lucia Kuhn et Chloé Sanchez et préparée par Grégory Salomonovitch. Jean-Philippe Jeanne et De Farguerid étaient à la technique aujourd'hui. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la page J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du festival Étonnant Voyageur à Brazzaville du 14 au 18 février. L'Afrique qui vient va vous étonner. Les 14 et 15 février, pour la première fois, France Inter sera en direct et en public de Brazzaville. Nous vous offrons deux jours sous l'équateur, avec les musiciens, les cinéastes, les écrivains, les intellectuels, en train d'inventer l'Afrique du 21e siècle. 10 heures d'antenne sur France Inter, à la rencontre de l'Afrique qui vient. Toutes les infos sur franceinter.fr.
16 heures sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
C'est une décision lucide, les mots de Mgr André 23, chef de l'Église catholique française, pour qualifier aujourd'hui la démission de Benoît XVI. Fait rare dans l'histoire du Vatican, le pape a donc annoncé son départ pour le 28 février. Le souverain pontife dit ne plus avoir la force de diriger son ministère. Un nouveau pape sera donc désigné le 31 mars prochain. Parmi les autres réactions, on notera aussi celle des évêques espagnols qui se disent aujourd'hui orphelins. En Irlande, un groupe de victimes d'actes de pédophilie commis par des membres de l'Église catholique salue cette décision. Tout en regrettant que Benoît XVI n'ait rien fait malgré ses promesses pour sanctionner les responsables. Au moins 5 personnes ont été tuées hier dans les affrontements entre islamistes et forces maliennes et du Mali. 2 islamistes donc et 3 civils selon des sources militaires et médicales. En milieu de journée, le marché de Gao a lui été évacué par les forces de sécurité par crainte d'un attentat. Et ce matin à l'aube, l'aviation française a bombardé le commissariat principal de Gao où des islamistes s'étaient retranchés. Bachar el-Assad prévient, il ne renoncera pas à ses principes malgré les pressions et les complots. Le président syrien s'exprimait aujourd'hui devant une délégation jordanienne. La CLCV va porter plainte. L'association de consommateurs dénonce aujourd'hui une tromperie digne du Moyen-Âge suite à l'affaire de la viande de cheval retrouvée à la place de la viande de bœuf dans des plats surgelés. La CLCV demande aux pouvoirs publics français et européens de faire toute la lumière sur ce dossier, d'en tirer les conséquences aussi au niveau réglementaire et elle réclame également une réelle harmonisation en Europe. De son côté, justement, en réponse, la Commission européenne botte en touche. Il y a tromperie, oui, mais il n'y a pas de danger pour la santé des consommateurs. François Hollande, lui, demande des sanctions contre les manquements, les profits et les comportements inadmissibles. Dans une demi-heure, les acteurs de la filière de la viande seront assis autour de la même table au ministère de l'Économie à Bercy pour une réunion de crise. Et puis ce matin, les entreprises Spanghero et Comigel ont, elles, été contrôlées par la répression des fraudes. Spanghero et Comigel ont fourni la viande et préparé les plats surgelés à la DGCCRF. Un syndicat n'hésite pas à dire que cette affaire est révélatrice des difficultés de l'organisme à exercer ses missions de contrôle. La faute, explique le syndicat, à des réductions de moyens et d'effectifs drastiques. En Italie, le procès du Rubygate reprendra après les élections législatives des 24 et 25 février prochains. La décision a été prise aujourd'hui par les magistrats italiens en raison des engagements de Silvio Berlusconi. L'ancien président du Conseil italien est engagé dans la campagne électorale. Dans l'affaire du Rubygate, le Cavaliere est accusé d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec Ruby, une jeune danseuse professionnelle marocaine qui, au moment des faits, était mineure. Retour en France, l'autoroute A64 entre Pau et Tarbes est rouverte à la circulation. Elle a été fermée pendant 2 heures jusqu'à 15 heures aujourd'hui en raison des fortes chutes de neige. Au championnat du monde de ski à Schladming en Autriche, l'Autrichien Baumann a pris la tête du super combiné ce midi. Le Français Théo est quatrième à 40 centièmes. Alexis Pinturo, donné favori au départ, a lui été distancé. Il accuse plus de 3 secondes de retard. Il lui reste encore le slalom, début des épreuves à 18h15. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine dans le Pont des Artistes,
tu n'en saurais rien.
Isabelle Dordain reçoit Albin de la Simone.
Hier à la mairie, autant de tout promettre, je ne t'ai pas menti. Peut-être
Messia.
Tu me ravis comme un courant d'air pur à mes visites de courtoisie.
Et We Were Evergreen.
Away with the lights and down. Run away while I could.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Ledéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Tout à l'heure, vers 16h30, j'aurai le grand plaisir de recevoir une brillante violoncelliste, Alissa Wallerstein, et elle va venir nous parler d'un disque tout récent qu'elle a gravé sous la direction de Daniel Barenboim, l'immense musicien, avec l'orchestre de la Staatskapelle de Berlin. Et puis, il y aura aussi évidemment d'autres musiques avant. Et avant, c'est de la musique française avec une parution chez Virgin Classics. Et cette folie française nous est offerte avec le fameux tableau de Delacroix qui a été un petit peu endommagé au musée du Louvre Lens, vous savez. Et donc, il est toujours bon, en bonne forme ce tableau. On attendait le pire et ça n'est pas si grave que ça. Enfin, je ne m'avance pas, mais ceux qui savent restaurer vont arranger l'affaire. Donc, il y a cette folie française avec le tableau célèbre, cette jeune femme, cette Marianne, les seins à l'air, et puis portant le drapeau français, tout le monde très exalté autour. 4 disques, et voici pour commencer, par exemple, le concert en ré majeur pour piano, violon et quatuor à cordes d'Ernest Chausson. C'est une de ces merveilles, mais véritablement peu connues au départ, puis maintenant qui fait partie des trésors que tous les musiciens veulent interpréter. Voici la délicieuse Sicilienne.